Moi, je dirais qu'il y a une compétence qui est peut-être la plus importante, c'est l'empathie. Et puis, il y a un côté humain et un côté, il faut aimer les gens.
Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes, elles le savent. On a besoin d'elles et plus seulement à la maison.
Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas.
Le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme.
Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison.
Elle reste à la maison.
Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant.
Bonjour et bienvenue dans Les Femmes au cœur de l'emploi, le podcast qui retrace le parcours de professionnelles inspirantes. Elles vont vous raconter leurs histoires et vous donner leurs conseils si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un de ces métiers. Pour cette première série de podcasts, nous allons nous intéresser au secteur de la tech. C'est un secteur où les femmes sont souvent peu représentées. Avec nous pour ces podcasts, Antoinette Van Dalen, Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est notre experte sur ce sujet. Antoinette, bonjour. Qui vas-tu nous présenter aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous recevons Nashla Manei. Bonjour Nashla.
Bonjour Antoinette.
Tu es consultante avant-vente chez Talentsoft. Tu peux nous dire en quoi consiste ton métier et ton quotidien ?
Alors, métier d'avant-vente, c'est un métier de consultant. On a une casquette fonctionnelle, commerciale et technique. Et en fait, on assiste les commerciaux dans l'entreprise pour effectuer leurs ventes.
Et tu as suivi des études spécifiques pour devenir avant-vente dans ce secteur ?
Alors, pas vraiment. Les études, ce que j'ai suivi comme étude, c'est un diplôme. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie logiciel. Donc, c'est vraiment de l'informatique fondamentale. C'est une école qui, à Tunis, mais qui ressemble aux écoles INSA ici en France. C'est le même principe. Il y a un cycle préparatoire qui est intégré. Ça s'appelle une prépa intégrée. Donc, ça dure 2 ans et demi, 3 ans. Et après, il y a quand même une spécialisation. Et dans mon cas, c'était de l'informatique fondamentale.
Elles réclament extrêmement beaucoup de responsabilités qu'elles n'avaient pas autrefois. Elles ne veulent plus être des femmes objets.
Oui. Et tu peux nous raconter comment tu es arrivée, pas chez Talentsoft, hein, parce que c'est là où tu travailles aujourd'hui, mais en fait, tu as démarré en fait, ta carrière en entreprise à la Défense, dans une entreprise. Comment ça se fait ce choix, en fait? Pourquoi tu as démarré en fait, dans cette entreprise-là, ici à Paris, à la Défense? Parce que tu viens de...
Je viens de Tunis.
Oui.
Oui, en fait, je suis tunisienne naturalisée française. Et voilà, c'est aussi un exemple d'une femme tunisienne, donc maghrébine, musulmane, naturalisée française. Donc, c'est un peu citoyenne du monde qui a démarré. En fait, tout a démarré quand j'étais encore à la faculté. À la fin des études, j'avais plusieurs amis. Et parmi ces amis, il y en avait plusieurs qui avaient intégré à l'époque un fleuron de l'industrie, on va dire informatique, qui s'appelle HRAccess, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et HRAccess avait une représentation à Tunis, donc un bureau, mais qui était responsable de tout le marché MIA, Middle East Africa, donc Moyen-Orient et Afrique. Donc c'était un bureau à Tunis. Quand j'avais intégré HRAccess, comment j'ai eu l'idée en fait? Discussion entre potes à la fac, très simple.
Ouais.
Et en fait, j'avais des copains, des copines un peu plus âgées que moi, donc qui avaient déjà intégré le monde du travail, et j'avais que de bons échos de cette entreprise. Un bon salaire qui était bon pour quelqu'un de débutant, une très bonne ambiance, et puis beaucoup de formation et donc de développement personnel. Donc voilà, j'ai intégré, mais c'était rapide hein, à l'époque. Avec un diplôme comme le mien, en ayant quelques personnes qui te cooptent en entreprise, tu arrives vraiment, en 2 semaines, j'avais réussi les entretiens et j'avais intégré cette entreprise, donc HRAccess. Ce qui s'est passé, c'est que changement de manager, mon manager est devenu quelqu'un qui était basé en France et moi j'étais basée à Tunis et je lui reportais. Donc j'avais un manager qui était géographiquement pas au même bureau que moi. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé très souvent à venir à Paris pour des petites missions de 1 semaine, 2 semaines. Donc je faisais Tunis-Paris j'avais un rythme de vie assez effréné, mais voilà, j'étais célibataire, j'avais aucune responsabilité, donc c'était facile. Et donc voilà, j'ai vécu comme ça pendant 2 ans. Ça m'a permis de connaître les équipes françaises de HRAccess qui étaient sur place à la Défense. Quand il y a un poste qui a été ouvert d'avant-vente basé ici en France, ben en fait le manager voulait que ce soit moi parce qu'il me connaissait, etc. Et ça a été facilité grâce à ça. Ça a été aussi facilité par le fait que HRAccess était une entreprise quand même américaine. Et dans les entreprises américaines à l'époque, l'expatriation, le détachement, c'était des choses qui étaient très courantes. Pas comme en France, maintenant c'est devenu courant en France, mais à l'époque c'était plus anglo-saxon comme démarche. Donc voilà, j'ai été expatriée et à la base j'étais venue à Paris pour 1 an.
C'est tout. Donc c'était une aventure d'un an, renouvelable une fois, et j'allais repartir à Tunis. Et voilà, donc aujourd'hui je suis devant vous, ça veut dire que finalement le retour ne s'est pas fait, et que je me suis installée ici finalement.
Et ça fait combien de temps que tu es là ?
Ça fait en tout 8 ans. Donc j'ai fait. Oui. Bah en fait, j'ai fait. Mine de rien, on se sent toujours jeune, mais en fait, on n'est pas forcément. Donc moi, j'ai fini. Donc quand je suis venue ici en avant-vente, en tant qu'avant-vente France, chez HRXC, je suis restée une année. Et après, voilà, vraiment pareil. Donc hasard, le fait que HRXC s'est fait aussi racheter à l'époque, donc changement managérial et tout. J'ai mis à jour mon CV et j'ai été chassée par une entreprise qui s'appelle Talentsoft, dans laquelle je suis, j'ai la chance d'être toujours voilà, aujourd'hui. Et puis j'ai été, quand on dit chassée, ça veut dire qu'il y avait un poste ouvert, qu'il y avait une agence de recrutement mandatée par Talentsoft qui m'a contactée et qui m'a dit, ben, qu'est-ce que tu disais si tu rejoignais Talentsoft en tant qu'avant-vente senior.
Alors justement, ce qui est intéressant de savoir dans le secteur de la tech, c'est qu'en 2019, par exemple, c'est 80 000 emplois non pourvus dans le secteur de la technologie. Sur 2020, on estime à 50 000 emplois, intention d'embauche. C'est un secteur dans lequel on est chassé, puisque c'est un secteur dans lequel il y a des postes à pourvoir, un secteur dans lequel on a besoin de main-d'œuvre. Donc voilà, c'était important à préciser pour nos auditeurs que d'être chassé quand on travaille dans ce secteur, c'est très courant.
Effectivement, et d'ailleurs, on est très conscient de ça, même à Tunis, où j'étais, parce que figurez-vous que quand j'ai présenté mon dossier, il faut un dossier administratif pour l'immigration auprès de l'OFI, et dans ce dossier-là, il fallait aussi que l'entreprise justifie le fait d'appeler quelqu'un de l'étranger. Il faut qu'on ait des compétences, je dirais pas rares, mais voilà, il faut justifier en tout cas cette prise de poste, et il faut justifier d'un point de vue gouvernemental français pourquoi on a besoin parfois sur certains postes d'aller chercher ou de recruter quelqu'un qui vient d'étranger. Après, moi je me considère toujours en tant que Tunisienne comme étranger proche de la France.
Bien sûr. Mais justement, c'est intéressant de préciser que dans le cadre de carrières qui se font à l'international, ça se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la mobilité internationale. Évidemment, elle est beaucoup plus facile quand elle est dans des secteurs qui recrutent comme la tech. À titre d'info, c'est 124 000 demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'aide à la mobilité géographique. 124 000 personnes que Pôle emploi a accompagnées pour aller travailler à l'étranger.
Ton métier donc d'avant-vente, tu l'as acquis en fait au cours des années. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à avoir pour devenir consultante avant-vente?
En fait, j'ai un peu répondu tout à l'heure quand j'ai commencé, c'est-à-dire qu'il faut effectivement ces trois casquettes. Donc, quand je dis casquettes, ça englobe plusieurs compétences. On est vraiment. Donc, on a un rôle commercial. Il ne faut pas oublier que nous, on est là, in fine, pour que notre logiciel, le logiciel Talentsoft édité par l'entreprise qui s'appelle également Talentsoft, se vende et puisse se vendre. Après, on doit aussi s'adapter au marché, on doit s'adapter aux clients, etc. Donc, tout ça rentre dans la casquette commerciale. Deuxième, c'est la connaissance technique, parce qu'on vend un logiciel, donc l'informatique est quand même importante, même si elle n'est pas pour moi nécessaire. On peut d'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues qui ont commencé par être, comme je disais, des personnes du métier, RH, et ils ont des notions informatiques, mais ils ont appris au fil de l'eau. Ça dépend du logiciel qu'on vend. Si c'est un logiciel qui est très technique, il faut absolument avoir cette casquette technique, et si le logiciel est plutôt facile en paramétrage, très paramétrable, très souple, comme Talentsoft l'est aujourd'hui, on appelle ça les applications low-code aujourd'hui, donc c'est du paramétrage, mais c'est pas du développement. Là, on peut, à la limite, ne pas avoir forcément cette casquette informatique, mais elle aide. Quand on l'a, elle aide beaucoup. Et la troisième casquette qui est pour moi la plus importante, ex aequo avec la commerciale, c'est la casquette métier. C'est-à-dire que quand on vend un logiciel marketing, il faut s'y connaître en marketing. Et donc tout ça, oui, bien sûr, tout ça peut s'apprendre. Il n'y a aucun frein. Et puis, moi, j'encourage tout le monde, si vous êtes en tout cas dans des cursus universitaires et que cet emploi vous parle ou vous suscite votre curiosité, n'hésitez pas à faire vos recherches sur Internet, voir ce qu'il y a sur Pôle emploi. Et sur les sites internet, de toute façon, maintenant, tout est documenté. Sur les réseaux sociaux également, il y a des réseaux sociaux professionnels. Et donc, n'hésitez pas. Moi, je dirais qu'il y a une compétence qui est peut-être la plus importante, c'est l'empathie. Et puis, il y a un côté humain et un côté, il faut aimer les gens. Parce que c'est un métier où on fait beaucoup de rencontres. Et il faut être empathique, parce que si on n'est pas empathique avec un client, je pense que ça ne marchera pas, il le sentira et ça ne marchera pas.
Ouais. Est-ce que c'est une qualité féminine, justement?
Ah!
Très bonne question. Je ne peux pas affirmer ça. Moi, je pense que forcément, les femmes, on a, on appelle ça cette fibre un peu féminine, cet instinct féminin. Oui, ça peut faciliter les choses. Mais moi, écoutez, moi, je pense qu'être femme, ça, en tout cas, ça ne peut pas du tout être un frein à ce métier-là. Ça pourrait avoir un petit plus, donner un petit plus. Mais je travaille avec beaucoup de collègues hommes qui peuvent être très, très bien aussi. Et donc, voilà, on va dire que... On est ex aequo face à ça.
D'accord, ok. Parce qu'en fait, les secteurs numériques, on le sait, voilà, il y a assez peu de femmes quand même qui travaillent dans le secteur numérique, technologique. Et dans ton métier, est-ce que tu vois la même chose ou est-ce que c'est plutôt en égalité homme-femme, je veux dire ?
Chez Talentsoft, je pense que c'est une chance. Je considère qu'on est pratiquement à égalité. On est à égalité. En tout cas, dans l'équipe, c'est peut-être un hasard, mais on est vraiment ex aequo, trois filles et trois garçons, ou trois femmes et trois hommes. Mais du coup, je pense aussi que parce que ça tourne, le logiciel tourne autour des ressources humaines, et très souvent, on a des femmes dans les départements ressources humaines. Par exemple, quand j'étais pendant mes études, effectivement, on était en faible nombre, les femmes, par rapport aux hommes.
C'est justement ce que j'allais te demander. On a rencontré à travers ces podcasts plusieurs personnes, plusieurs femmes qui bossent dans la tech. Elles nous ont toutes dit que pendant leurs études, il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Toi, tu as fait tes études en Tunisie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les études dans la tech ?
Oui, mais c'est en train de se renverser.
Oui. Comme en France.
Oui, mais c'est en train de se renverser parce que on est un peu fiers de ça en Tunisie. Parce que nous, les femmes, on est en train de prendre une belle revanche là. En général, on est les filles en Tunisie. Ça, c'est des statistiques. Hein, c'est je n'ai pas les chiffres en tête, mais elles sont plus studieuses. Elles réussissent plus dans leurs études. Elles réussissent mieux également avec des moyennes fortes et elles sont majeures de promo, etc. En statistique, elles sont du coup plus que les hommes et c'est en train d'être renversé. Heureusement, cette tendance là.
Oui, donc il n'y a pas qu'en France qu'on voit cette évolution. Elle est partout, cette évolution des femmes dans les secteurs de la tech, et pas que d'ailleurs.
Ouais, non, c'est super intéressant. Et en fait, pourquoi, à ton avis, c'est important que les femmes sont présentes en fait, dans ce type de métier ?
Bah parce qu'elles ont tout à y apporter. Moi, je dirais, on peut pas... pas parce qu'on est femme, on a apporté dans tous les domaines. Moi, je pense qu'on est vraiment... on est normalement constitué, bien sûr. On a un cerveau, en général, en plus... des cerveaux qui fonctionnent très bien, avec notre côté un peu instinctif, sensible, etc. Et après, le côté études, enfin, on est très très bonne dès qu'on se concentre en fait, sur un sujet. Moi, je ne connais pas de femmes qui ont arrêté parce qu'elles ont fondé des familles, fait des enfants, etc. Donc, pour moi, il n'y a aucun frein, en fait. Après, effectivement, ça, c'est par rapport aux études. Dès qu'on arrive dans le milieu du travail, il faut juste avoir confiance en soi. Et savoir se faire sa place, tout simplement.
Et le rapport avec les collègues masculins, que ce soit en France ou en Tunisie, comment ça se passe quand on est une femme surdiplômée, qu'on fait de la tech ?
Pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Je pense que le fait est que quand moi, je suis arrivée dans le monde du travail, dans la vie active, j'avais 24 ans, j'avais déjà des managers femmes, des coachs femmes qui étaient tout aussi importantes et influentes que les hommes. Après, c'est vrai que, maintenant que j'y pense, c'était pas des postes de PDG ou c'était plus des postes de ce qu'on appelle le mid-management ou le management du milieu.
Intermédiaire.
Ouais. Intermédiaire. C'est en train, petit à petit, même maintenant, aujourd'hui, dans les comités exécutifs des entreprises, vraiment la sphère dirigeante, on commence à avoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes et ça commence petit à petit dans cette sphère-là, à s'intégrer, surtout avec la conscience collective. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de ça. Et on mesure d'ailleurs, nous qui vendons un logiciel RH, parmi les indicateurs qu'on nous demande quand on fait la mesure des effectifs, c'est l'indicateur égalité homme-femme. Après moi, effectivement, pour reboucler par rapport à la question, quand j'ai commencé, ma première manager était femme. Pour moi, j'avais ouvert les yeux, j'avais vu cette femme qui m'a impressionnée à l'époque. Après, bon, elle a fait aussi une partie de sa carrière en France, mais c'est aussi un hasard. Et elle a su vraiment nous coacher, nous encourager. C'est elle qui nous a aussi insufflé cette force, cette persévérance, etc. Donc voilà, les collègues, aussi bien à Tunis qu'en France, il faut passer outre. Alors parfois, effectivement, il y a toujours, et ça c'est un peu dommage, il y a toujours des petites remarques. Parfois, c'est des petites remarques un peu dévalorisantes ou peut-être un peu
parfois sexistes, etc. Ça arrive toujours.
Moi, dans la tech comme ailleurs, j'imagine. Enfin,
dans la tech comme ailleurs. Voilà. Pour moi, ça ne doit pas être un frein. Ça, c'est des choses qui doivent rester marginales, anecdotiques. Et voilà, on doit juste savoir avoir du répondant, savoir s'imposer et puis travailler. Pour moi, il faut qu'on sache que ceux qui arrivent à des postes comme ça, des postes de responsabilité et arrivent à se confirmer et à réussir dans n'importe quel emploi / poste qu'ils occupent, c'est le travail.
Oui.
Et donc le mérite. Voilà.
J'ai déjà eu antérieurement l'occasion d'être dirigé par une femme et il faut l'admettre que j'étais très bien dirigé.
Est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui aimeraient bien se lancer dans ton métier déjà, mais aussi dans le secteur ?
Moi, je pense qu'il y a de la culture générale déjà à avoir. Maintenant que, franchement, je me rappelle que moi, quand j'étais en fin d'études, des années lycée, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, franchement, je m'adresse surtout aux jeunes. Vous ne réalisez pas la chance que vous avez à pouvoir cliquer sur un bouton et trouver toute cette connaissance qui est sur Internet. Et donc, n'hésitez pas à aller surfer, voir les pages des entreprises, les pages LinkedIn, Internet des entreprises, lire des articles, donc se documenter sur l'entreprise qui nous donne envie ou l'emploi qui nous donne envie. Et après, il faut bien sûr faire les bonnes études et après, il faut surtout avoir de la détermination parce que forcément, on va avoir des petits freins parfois, le chemin il peut être un peu semé d'embûches, mais ça c'est normal. Il faut juste s'accrocher et travailler, c'est tout.
Est-ce que tu as un petit mot de fin peut-être ?
Mot de la fin, je pense toujours aux auditeurs et aux auditrices qui vont avoir le chance de cliquer sur ce podcast pour nous écouter. Moi j'ai été ravie en tout cas de vous raconter un peu ma petite expérience. Mot de la fin, c'est que de l'encouragement. Et maintenant qu'on est au mois de l'égalité, on va dire homme-femme, on est au mois de mars, tous mes messages d'encouragement aux jeunes femmes qui nous écoutent, bien sûr les étudiants, les hommes également, mais voilà, mes encouragements, travailler, et il y a vraiment, comment on dit en anglais, sky is the limit, donc le ciel est la limite, il n'y a pas de limite, foncez, utilisez Internet, utilisez vos réseaux de connaissances pour en savoir plus sur ces métiers. Et après, il suffit voilà, de savoir travailler et de savoir s'intégrer.
Voilà. Merci beaucoup, Najla, pour ce témoignage.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, Antoinette, de nous avoir présenté, Najla, son parcours très, très riche d'expériences et vraiment très intéressant.
Avec plaisir.
C'est déjà la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura permis d'en savoir plus sur le métier de consultante avant-vente. Je compte sur vous pour relayer ce podcast à vos amis ou à toute personne à qui il pourrait être utile et qui trouveront, à travers ce témoignage, j'en suis sûre, des réponses à leurs questions. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des femmes au cœur de l'emploi.